disait Jean-Paul au sujet du fait que j'ai fait un apprentissage de confiseur ici à Bienne me fait penser à une petite histoire que j'ai vécue à Lausanne. La personne qui présidait le culte ce jour-là, sachant que j'étais confiseur, m'avait présenté en disant « Fernand nous a préparé le dessert ». Et puis, il y avait un petit enfant qui était en train de partir à l'école du dimanche, qui est revenu en arrière vers sa mère et qui a dit « Tu m'en garderas une tranche !» Alors voilà, je ne sais pas si c'est le dessert, mais en tout cas, il y en a une tranche pour vous aussi aujourd'hui. Le message que je vous propose ce matin s'intitule « Ayez, ou plus exactement, ayons confiance en Dieu ». Il est tiré de quelques versets, dont je donnerai les références tout à l'heure, qui ont peut-être, à l'occasion ou une autre, tenu votre attention, ou peut-être pas. Et si je dis les choses ainsi, ce n'est pas que je mette en doute votre capacité à lire attentivement l'Écriture, mais plutôt que ce texte se trouve logé quelque part dans les premiers chapitres du premier livre des Chroniques. Et si vous avez lu ces premiers chapitres, vous savez qu'ils sont composés essentiellement de généalogies, c'est-à-dire de noms qui se suivent les uns derrière les autres, des noms pas toujours faciles à retenir d'ailleurs, et ça donne l'impression, quand on lit ces chapitres, de lire plutôt l'annuaire téléphonique que la Bible. Et si vous êtes comme moi, alors votre attention est sans doute à 100% lors de la lecture des trois premiers versets. Ensuite, elle s'en va vagabonder dans des sphères bien éloignées du texte en question. Les yeux ont beau être rivés sur le texte, mais l'attention, elle, où est-elle? Mais fort heureusement, il y a dans ces chapitres quelques versets, par-ci, par-là, dont la vocation est peut-être de ramener notre attention de manière à ce qu'elle ne fasse plus qu'un avec nos yeux. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, c'est ce qui se passe en général lorsque je lis ces chapitres. Et ce matin, j'aimerais méditer avec vous quelques versets qui, justement, se trouvent dans cette partie de la Bible. Il s'agit du chapitre 5, du premier livre des Chroniques, et on lira les versets 18 à 20. 1 Chroniques 5, 18 à 20. Et on lit ceci. Les membres des tribus de Ruben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé, avaient 44 760 vaillants soldats, capables de manier le bouclier et l'épée, ou tirant à l'arc. Ils étaient exercés à la guerre et prêts à combattre. Ils firent la guerre aux Agaréniens et à Yotour, Naphish et Nodab. Dieu les secourut et leur donna la victoire sur les Agaréniens et sur tous leurs alliés, parce qu'ils l'en avaient imploré pendant la bataille. Il les exauça parce qu'ils lui avaient fait confiance. Comme vous avez pu l'entendre, ces quelques versets nous parlent d'une guerre que deux des tribus d'Israël, plus la demi-tribu de Manassé, avaient mené contre une coalition d'armées ennemies. Et en fait, à part ces quelques versets dans ce premier livre des Chroniques, on ne sait que peu de choses sur cette guerre. Mais ce qu'on sait d'une manière sûre et certaine, c'est que les Israélites a remporté la bataille. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer votre attention sur les caractéristiques de ces combattants. Il est dit qu'ils savaient manier le bouclier et l'épée, que certains d'entre eux tiraient à l'arc, qu'ils étaient exercés à la guerre et prêts à combattre. Et pour couronner le tout, ils n'étaient pas un petit nombre, puisqu'il est dit qu'ils étaient 44 760 hommes de guerre. Alors 44 760 hommes de guerre, ça peut sembler beaucoup, mais c'est un peu relatif, parce que ça dépend aussi de combien combien étaient présents dans l'armée d'en face. Et ça, le texte ne le dit pas précisément, mais on a bien quelques raisons de penser qu'ils étaient plus nombreux que cela, parce que le verset suivant nous dit que les Israélites ont fait à cette occasion 100 000 prisonniers. Donc s'il y avait 100 000 prisonniers, on peut penser que l'armée était quand même assez conséquente. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec 44 760 soldats de cette trempe-là, il y avait de quoi faire quelque chose, et l'armée d'Israël a fait quelque chose puisqu'elle a gagné la bataille. Mais il y a probablement une chose qui ne vous a pas échappé, c'est que cette victoire n'est attribuée à aucune des caractéristiques de ces soldats. Il n'est pas dit qu'ils ont remporté la bataille parce qu'ils savaient manier le bouclier et l'épée. Il n'est pas dit qu'ils ont remporté la bataille parce qu'ils étaient capables de tirer à l'arc ou parce qu'ils étaient exercés à la guerre ou prêts à combattre. Non plus parce qu'ils étaient 44 760 personnes. Il n'est pas dit non plus que c'est parce qu'ils avaient une bonne stratégie ou devant eux un leader charismatique qui savait mener des hommes, ou encore moins qu'ils auraient mérité cette victoire pour une raison ou pour une autre. Mais ce qui est dit, c'est que si la victoire leur a été accordée, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance dans le Seigneur. Dieu les secourut et leur donna la victoire. Et puis la fin du verset, il les exauça parce qu'ils lui avaient fait confiance. La clé de cette victoire était donc cette confiance que ces soldats ont mis dans leur Dieu, dans le Dieu d'Israël. Le livre de Jérémie consacre quelques versets à la vie d'un homme peu connu parmi les personnages bibliques. Cet homme s'appelait Ebed-Melech, il n'était pas israélite, il était éthiopien, et il était eunuque dans le palais du roi. Et cet homme s'est fait remarquer grâce à une occasion courageuse, grâce à une action courageuse. En fait, il est intervenu à un moment où Jérémie avait passablement d'ennui. Alors vous me direz, ce n'est pas la meilleure manière de préciser les choses dans le temps, parce que Jérémie a eu pratiquement des ennuis toute sa vie. Donc, à quelle époque c'était précisément? Mais il n'en demeure pas moins qu'il avait des ennuis un peu plus costauds à certains moments qu'à d'autres. Et la situation à laquelle je fais allusion ce matin, c'est ce moment où Jérémie avait été précipité dans une citerne parce qu'on voulait se débarrasser de lui. Et ce fameux Ebed-Melech a eu vent de l'histoire et est intervenu en sa faveur. Il est allé trouver le roi et a intercédé en sa faveur. Or, à ce moment-là, s'afficher comme un défenseur de Jérémie n'était pas particulièrement bien vu. Il fallait donc du courage à cet homme pour intervenir et pour aller réclamer la libération de Jérémie, et il a obtenu gain de cause. Jérémie a pu être remonté de sa citerne et ainsi être sauvé. Mais quelque temps plus tard, une parole de Dieu a été adressée à ce Ebed-Melech par l'intermédiaire de Jérémie, et je vous propose de lire cette parole. Elle se trouve dans Jérémie 39, les versets 15 à 18. Je les lis. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. « Va trouver Ebed-Melech, l'Éthiopien. Dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare. Tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper, et tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve, parce que tu as mis ta confiance en moi, l'Éternel le déclare. Et on retrouve ici quelque chose d'identique à ce qui nous est dit dans notre texte de ce matin. Ce n'est pas parce que Ebed-Melech a entrepris une action courageuse, parce qu'il a été bienveillant ou parce qu'il a cherché à exercer la justice dans la situation en particulier, mais ce qui est relevé, c'est parce qu'il a eu confiance dans le Seigneur. Alors sans doute cette confiance en l'Éternel était la force motrice de tout ce qu'il a pu entreprendre en faveur de Jérémie, mais ce qui est relevé, c'est cette confiance qu'il avait mise dans le Seigneur. Et cela n'est pas étonnant, parce que ce que Dieu attend prioritairement de nous, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, qu'on soit dans une bonne situation ou dans une situation plus difficile, plus critique, ce que le Seigneur attend de nous en tout temps, c'est que nous placions notre confiance en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser des responsabilités qui sont les nôtres, mais dans ces responsabilités, dans tout ce qu'on a à entreprendre, on peut le faire en plaçant notre confiance en lui. Et il en est de même pour le salut. Le salut, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, ces choses ne s'obtiennent pas grâce à nos aptitudes ou à de bonnes dispositions qu'on pourrait, s'il se trouve qu'on en a, mais ces choses s'obtiennent par la foi, c'est-à-dire par la confiance qu'on met dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa venue, dans sa mort pour nos péchés et dans sa résurrection pour notre justification. L'apôtre Paul le dit clairement en Éphésiens 2, verset 8, il dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Par le moyen de la foi, et cette foi dont il est parlé ici, c'est cette foi qui croit et qui fait confiance à Dieu et qui fait confiance à son œuvre. Notre salut ne repose pas sur nos épaules à nous, mais sur celle de Jésus-Christ. Maintenant, comment bien décrire cette confiance? Alors pour cela, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un missionnaire qui était missionnaire au 19e siècle, tout début du 20e aussi. Il s'appelait John Patton, c'est un missionnaire anglais, qui était parti dans les îles du sud-ouest du Pacifique. Et le problème, c'est que ces îles étaient habitées de tribus qui étaient cannibales. Et lorsqu'on se dévore au sens littéral les uns les autres, ce n'est pas propice à générer de la confiance les uns envers les autres. En conséquence, ces tribus habitant ces îles n'avaient dans leur vocabulaire aucun mot qui leur permette de traduire la notion de confiance ou de foi ou de croyance confiante, comme on peut le trouver dans l'Écriture où on est appelé justement à croire, mais dans le sens de faire confiance à ce qui nous est dit et ce qui a été accompli. Alors, notre missionnaire, quand il en avait les moyens et quand il avait acquis suffisamment de connaissances de la langue de ces personnes, s'est lancé dans une traduction de l'Évangile de Jean. Mais il s'est bien vite trouvé confronté à un problème, c'est qu'il n'avait pas les mots pour traduire justement ces notions de foi, de confiance, de croyance en Dieu, dans le sens de lui faire confiance. Quand vous arrivez au chapitre 3 de l'Évangile de Jean et qu'il y a ce fameux verset le plus connu de toute la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle », eh bien, comment est-ce qu'il pouvait traduire cela, « quiconque croit » Il n'avait pas les mots pour le faire. Alors, un jour qu'il était chez lui, il s'est installé confortablement dans son fauteuil et il y avait là son employé de maison qui était membre de ces tribus, qui avait donc qui connaissait parfaitement la culture et la langue. Et il s'est assis dans son fauteuil et a levé les jambes de manière à ce que les pieds ne touchent plus par terre. Et il a demandé à cet employé de maison, il a dit, « Comment est-ce que dans votre culture, dans votre langue, vous appelez ce que je viens de faire ?» Helga lui a répondu, nous, on appelle ça s'appuyer de tout son poids sur. Alors, notre missionnaire a choisi cette expression pour traduire la notion de foi, de confiance, s'appuyer de tout son poids sur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque s'appuie de tout son poids sur lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et voyez-vous, c'est à cela que nous sommes nous aussi appelés lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, à des difficultés, qu'elles touchent la santé, qu'elles touchent la famille, qu'elles touchent le travail, qu'elles touchent les finances. Ce à quoi on est appelé, c'est s'appuyer de tout son poids sur le Seigneur. Ses épaules sont suffisamment solides pour porter tout l'univers entier et il ne manque jamais de ressources pour venir à notre secours. Mais revenons quelques instants à notre texte, parce que dans notre texte, justement, tout indique que ces soldats, que cette armée, cette coalition de tribus d'Israël a précisément s'est appuyé de tout son poids sur le Seigneur et a finalement remporté la victoire. Mais il y a un petit détail dans le verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention, et c'est toujours au verset 20, il est dit « Dieu les secourut et leur donna la victoire sur les Agaréniens et sur tous leurs alliés parce qu'ils l'en avaient imploré pendant la bataille. » Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il est précisé pendant la bataille? Alors je vous dis ce qui en est ressorti de ma méditation. Si les choses sont dites ainsi, c'est pour nous dire d'une certaine manière qu'ils ne l'ont pas imploré avant la bataille. Ou alors, s'ils l'ont fait, ils ne l'ont peut-être pas fait avec la même ferveur qu'ils l'ont fait pendant la bataille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu, mais à mon avis, ils avaient aussi beaucoup confiance dans le fait qu'ils étaient 44 760 personnes, qu'ils savaient manier l'épée, le bouclier, qu'ils étaient exercés à la guerre et prêts à combattre. Et avec tout cela, ils se sont dit, on va aller au combat, on va terrasser l'ennemi, la chose sera réglée ni une ni deux, et on va s'en sortir de cette manière-là. Mais une fois dans le combat, l'ennemi s'est avéré bien plus redoutable que ce qu'ils avaient imaginé. Et ils ont, dans ce moment-là, imploré le Seigneur. Alors, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu à l'image de nos vies? Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, d'ailleurs. Bien souvent, on s'aventure dans la vie ou dans les défis auxquels on est confronté. Avec cette assurance, on a des aptitudes, on a des ressources, on a des moyens, on va pouvoir faire face à la situation. Et puis la tempête s'avère plus élevée, plus forte que ce qu'on avait imaginé. Et lorsqu'elle est au-dessus de nos forces, que faire? Eh bien, ce qu'ont fait les Israélites à ce moment-là, c'est-à-dire implorer le Seigneur et mettre sa confiance en lui, parce que, comme je viens de le dire, il ne manque jamais de moyens et il ne manque jamais de ressources pour nous venir en aide. Et précisément, ce qu'il attend de nous dans ces circonstances, c'est que nous puissions lui faire confiance. Alors, ce texte contient une bonne nouvelle, parce que s'il se trouve que quelqu'un parmi nous se trouve dans une situation justement difficile, eh bien ce texte nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour implorer le nom du Seigneur et pour placer sa confiance en lui. Ce n'est jamais trop tard, mais ce n'est jamais trop tôt non plus. C'est toujours le bon moment, aujourd'hui, maintenant, c'est le bon moment pour mettre sa confiance en lui. Et lorsqu'on met notre confiance et qu'on implore le Seigneur, il ne répond pas comme parfois nous le faisons dans nos rapports humains quand quelqu'un est dans une situation critique, on lui dit il fallait réagir avant, n'est-ce pas? Vous allez chez le médecin, vous allez laisser traîner un peu les choses, il va vous dire il fallait venir avant, n'est-ce pas? Mais Dieu n'intervient pas de cette manière-là. Il secourt ceux qui l'implore, ceux qui invoquent son nom, avec cette promesse, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce matin, notre texte nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Mettons notre confiance dans le Seigneur, avec à la clé aussi, pour terminer, cette promesse du psaume 125 qui nous dit ceci, « Ceux qui se confient dans l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. Amen. » Amen. Je vais prier encore avec vous et puis c'est Jean-Paul qui continuera pour la suite de ce culte. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es un grand Dieu et tu es un grand Dieu qui règne éternellement. Et comme nous le voyons au travers de ta parole et de ce texte en particulier de ce matin, ce à quoi tu nous invites jour après jour, c'est à placer notre confiance en toi. Et nous reconnaissons que pour nous, c'est une difficulté, parce que c'est vrai que nous avons tellement tendance à mettre notre confiance dans les ressources humaines, qui bien sûr peuvent être utiles à certains moments, mais qui ne sont pas fiables comme toi tu es fiable. Et Seigneur, nous te bénissons et nous te prions pour que jour après jour, par ton esprit, tu suscites, tu crées en nous cette confiance, que nous puissions la placer en toi et qu'ainsi tu sois glorifié, que ton nom soit béni. Amen.